écoutez bien Radio Canu, Canu Info du lundi 11 mars 2013 avec un petit peu de retard, on vous prie de nous en excuser. Jean-Pierre est dans les studios, Michel en duplex. On va aborder l'actualité internationale et nationale. Internationale tout d'abord, un sujet s'impose puisque le 11 mars, il y a deux ans, 2011, et en France, je crois que ça faisait le 12 mars à 6 heures du matin, une alerte était lancée à Fukushima. Bon, il y avait bien sûr le tremblement de terre, puis le tsunami, puisqu'on a trois catastrophes en une pour ce qui est de Fukushima, puis finalement la centrale nucléaire. Alors, souvenir des quelques 20 000 morts quasi instantanément par le raz-de-marée. Tremblement de terre n'a pas fait trop de dégâts. Mais par contre, le raz-de-marée lui en a fait beaucoup. Et puis il a inondé la centrale. Et on sait qu'en plus de toutes les inepties d'installer cette centrale là où elle était, il y a eu des erreurs humaines sur la gestion qui ont engendré une catastrophe dont on ne parle plus comme actuelle, alors qu'elle est complètement actuelle, puisque aujourd'hui, à l'heure où on parle, le cœur est toujours en fusion, des émanations de radioactivité sous diverses formes se font en continu et qu'on est bien foutu de les arrêter. Alors on préfère parler bilan, comme si c'était du passé, ce qui est nettement plus confortable, que de parler actualité d'une catastrophe qui dure toujours et qui est quand même la catastrophe absolue en matière de nucléaire. On reparlera un petit peu de ce qui peut nous arriver aussi en France, mais je te donne la parole, Robert.
Oui, simplement pour ajouter que, effectivement, comme tu le dis, ça continue de cuire dans la marmite et l'irradiation, elle aussi, elle continue d'exercer son effet nocif. Effet d'autant plus nocif qu'il est pratiquement invisible et qu'il va produire des effets catastrophiques à plus ou moins long terme. Le périmètre avoisinant Fukushima, eh bien, il reste interdit de fréquentation. Mais ce périmètre, il est symbolique. 10, 20, 30 kilomètres, ça veut rien dire face à ce type de contamination. Même chose pour ce qui est, là on parlait de la surface, et même chose pour ce qui est donc du sous-sol et puis naturellement des fonds de la mer qui est toute proche, et donc une catastrophe qui n'a pas fini de produire ses effets, et peut-être qu'effectivement on va tout faire pour, et c'est ce que continuent à faire les Japonais, à dire que non, ça ne ressemble en rien à ce qui s'est passé à Tchernobyl, alors que finalement on va arriver sans doute dans quelques décennies à des résultats assez voisins de ceux de Tchernobyl, sauf qu'effectivement le massacre humain de la faune et de la flore mettra un peu plus de temps à se révéler dans son horreur. On sait aussi que le paradoxe des Japonais, c'est d'avoir envoyé au pouvoir la droite qui s'est empressée de dire on va relancer les réacteurs, alors qu'il y avait une majorité de Japonais, croyait-on, on ne sait pas comment ils ont pu retourner leur veste pour certains d'entre eux, peut-être sous l'effet de la peur, de ne plus avoir d'électricité, ça devenait supérieur à la peur de mourir du cancer nucléaire. On ne sait pas trop ce qui s'est passé dans leur tête, mais toujours est-il qu'ils ont donc renvoyé la droite au pouvoir qui veut relancer les réacteurs. Je crois qu'elle l'a déjà fait pour deux, hein, il me semble, deux ou trois.
Oui, il y en a 52, hein, je crois, là-bas.
Oui, mais il y en a deux ou trois qui sont déjà redémarrés. Alors, tous ces jours-ci, le mouvement pour un arrêt immédiat du nucléaire au Japon est reparti de très fort. tous les jours, surtout en cette période de triste, de tragique anniversaire, tous les jours il y a effectivement des manifestations ou elles peuvent être massives ou symboliques pour dire non, on ne veut plus du nucléaire. Alors, qu'est-ce qui peut se produire? Est-ce que finalement les financiers réussir à faire peur au peuple en leur disant mais c'est l'appauvrissement qui nous guette si nous ne relançons pas le nucléaire, alors que jusqu'à présent les Japonais, dans un élan formidable civique, étaient en train de s'adapter à une situation, certes pour eux qui connaissaient un certain mode de vie facile, enfin du moins pour une grande partie de la population, avaient commencé à apprendre à vivre avec moins d'électricité, toute cette électricité qu'on use soit dans les transports, soit pour éclairer les rues, soit pour faire toujours des nouvelles choses. Bon. On en est là, et pour les Japonais ça va continuer. Et on voudrait bien que ça continue aussi en Europe, hein, si on peut faire la transition, mais tu voulais peut-être parler
On pourrait te dire encore beaucoup de choses sur Fukushima, hein, tous les victimes qui ne sont même pas nées encore aujourd'hui, puisque les femmes qui sont contaminées peuvent engendrer des anomalies chez leurs enfants à venir, qui leur pourriront la vie, voire qui les tueront. Donc la catastrophe est vraiment d'une ampleur énorme, mais on n'en prend pas encore toute la mesure. Alors, je voulais faire un peu le lien avec, on va peut-être traiter en même temps le nucléaire en France et la manifestation donc de samedi, puisqu'à Paris, il y avait un certain nombre de manifestants qui ont voulu marquer leur opposition à ce nucléaire et à sa sortie. Et puis, revenir aussi sur Fessenheim, hein, la plus vieille centrale de France qui devrait être fermée et que finalement on ferme pas trop. Alors je sais pas, c'est peut-être l'occasion d'attirer l'attention de nos auditeurs sur une émission d'une radio, une petite radio concurrente qui s'appelle France Culture, qui le samedi, c'est une heure pas très pratique pour tout le monde, mais de 7 à 8 à une émission Terre à Terre qui est toujours très intéressante, quoi. Et samedi, entre autres, il y avait le témoignage de Jean-Louis Badjan, qui est un militant anti-nucléaire, et qui nous rappelait un certain nombre de vérités sur Fessenheim. Je crois que j'ai choisi de reprendre parce qu'elles sont assez... Alors, on nous dit en France, il n'y a pas du tout... D'ailleurs, on nous dit d'une manière générale qu'il y a certains risques qui sont à une chance sur un million, une chance sur 10 millions, et qu'on peut les considérer comme négligeables. Eh bien, le risque d'inondation de Fukushima était de ceux-là. On a vu ce que ça a donné. Mais Fessenheim aussi est dans le même cas, parce que Fessenheim est le long du canal d'Alsace et en dessous du canal d'Alsace. C'est-à-dire que s'il y a un gros mulot qui fait un gros trou dans le canal d'Alsace, un gros mulot qui peut être un avion, une bombe ou n'importe quoi, Fessenheim se retrouve sous 11 mètres d'eau, c'est-à-dire la moitié de la hauteur des cuves est inondée. Si en plus il y a un autre petit malin qui trouve que ce serait sympa de s'en prendre à l'écluse qui est en amont du canal d'Alsace, là il y a un tsunami d'une vague de 12 mètres d'eau qui déferle sur la centrale. 12 et 11, vous avez compté, ça fait 23 mètres. Et pour arranger le tout, alors si c'est l'écluse en aval de Fessenheim qui était détériorée et qui se vidait, à ce moment-là, Fessenheim n'aurait plus sa réserve d'eau froide pour le refroidissement. Ça veut dire que, comme à Fukushima, on pourrait avoir une immense chaudière qui se met en route, quoi, avec cette vague serrée-là. Alors, les nucléocrates, ils sont pas fous, quand même. Ils ont dit, on va prévoir quelque chose, oui. Si jamais le sud du canal de l'Alsace nous fait défaut, eh bien, c'est formidable parce qu'il y a une nappe phréatique qui est en dessous. C'est même la plus grande nappe phréatique de France, 33 milliards de mètres cubes d'eau. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ben, ils ont percé un gros trou, des forages, et comme ça, ils ont une possibilité d'aller puiser de l'eau dans cette nappe, voir si la centrale est en fusion, d'y déverser l'eau polluée. Imaginez 33 milliards de mètres cubes d'eau première réserve de France polluée. C'est ça la sécurité du nucléaire en France. Et pour arranger le tout, vous savez qu'à Fukushima, il y avait un plancher en béton quand même sous les réacteurs de 6 mètres de béton. C'était pas rien hein, pour protéger face à une fusion. Et bien, les 6 mètres de béton, la fusion les a traversés, elle les a percés. Et à Fessenheim, combien croyez-vous qu'il y ait ? 12 mètres ? Pas du tout. Il y a 1 mètre de béton, un vide d'un mètre et 50 cm un deuxième plancher. Donc nous, on a 1,5 m de béton. Inutile de dire qu'ils seront percés beaucoup plus vite encore que ceux de Fukushima en cas d'un accident nucléaire. Et c'est donc, s'il y a une fusion dans cette centrale, 72 tonnes de corium, ils appellent ça, qui sera irradié et qui se répandra. Voilà. Si on ajoute à ça que Fessenheim est la record woman des centrales nucléaires du temps d'arrêt en proportion de sa vie des centrales nucléaires françaises, on se rend compte qu'il y a vraiment urgence pour des questions de sécurité d'abord, d'arrêter cette centrale, de la démanteler. Eh bien, on sait qu'un certain nombre d'opposants dans la région et ailleurs, ils sont très peu favorables et réclament qu'on maintienne leur outil de travail qui pourrait bien devenir leur outil de mort en même temps que le nôtre.
Et qu'effectivement, la pression est forte sur le gouvernement, sur Hollande, pour qu'il renvoie ça au calendrier grec, la destruction de cette centrale. Dans la manifestation de samedi, eh bien, c'était un appel aussi dans cette chaîne humaine à ce que la transition énergétique ait lieu maintenant. Ça veut dire que la transition énergétique, ça veut dire arrêter le nucléaire, programmer l'arrêt du nucléaire et en même temps programmer les forces énergétiques nécessaires, pas forcément pour remplacer la totalité, mais simplement pour faire que le débat ait lieu sur quels sont les besoins utiles, quelles sont les dépenses inutiles en matière d'énergie, etc. Mais que ça marche tout de suite. Alors, on ne sait pas, elle a démarré ce débat de la transition énergétique, mais en fait, c'est un peu comme les différents Grenelles sur l'environnement. C'est des trucs qui, finalement, c'est insipide. On prépare des discussions, des débats, c'est dilué, mais il n'y a pas de mouvement qui fasse que ce soit vraiment une démarche citoyenne qui s'organise autour de ça. Et on comprend bien l'intérêt à la fois du gouvernement et puis finalement de la droite et puis des forces qui défendent le nucléaire à faire que les choses comme ça s'éparpillent dans de petites discussions presque de café du commerce. Je voulais dire un mot aussi sur cette polémique. Alors c'est extraordinaire, c'est presque du cynisme. On polémique sur ce que serait le coût d'un accident dans le nucléaire. Alors l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, l'IRSN, avait en 2007 fait une estimation. Alors c'est une estimation, bon, c'est sur ce que serait, on ne parle pas des hommes, mais des individus, on parle, je ne sais pas de quoi d'ailleurs, et c'est chiffré en euros. Alors, selon la gravité de l'accident, ça pourrait aller, ça c'est les chiffres de 2007, ça pourrait aller de 760 milliards, on parle bien de milliards, à 5800 milliards. 5800 milliards, c'est des chiffres astronomiques. Bon, c'est des catastrophes dont on ne peut même pas imaginer ce que ça représente. Alors aujourd'hui, le même institut, le même IRSN, dit non, cette enquête que nous avions fait en 2007, en fait, aujourd'hui, on la relativise parce que depuis, on a continué de chercher. Et puis peut-être que le gouvernement aidant, on a découvert cette année, en 2013, que finalement, la fourchette, entre le moins pire et le pire, ça se situerait entre 120 et 430 milliards. Alors effectivement, on n'est plus du tout dans les mêmes dimensions. Mais enfin, rien que d'évoquer ces chiffres, c'est déjà affolant. Et on va dire, ben, évidemment, comme à cause de la crise, tout baisse. Et là, on fait même baisser les chiffres du coût d'un accident nucléaire.
Voilà, on va revenir sans l'avoir vraiment quitté à notre actualité internationale. Alors, bien que tu brûles de connaître les résultats du Concile de Vatican demain, du conclave, je te propose d'aborder d'autres sujets quand même avant. Peut-être même complètement de quoi on parle.
Mais je voulais revenir, non pas pour ajouter quelques brins de larmes ou de tristesse, non pas forcément, bien qu'elle fût grande, la personnalité de Hugo Chavez, mais c'est plutôt sur effectivement les difficultés à maintenir le cap de ce socialisme du 21e siècle, dont incontestablement il était le maître d'œuvre et surtout la locomotive. Bon, alors effectivement, il y a sans doute derrière lui plein de gens de bonnes intentions qui ont appris la politique, l'économie, certains d'ailleurs, y compris Maduro, le vice-président qui a en charge l'intérim et qui sera le candidat du Parti Socialiste Unifié Vénézuélien, donc du chavisme, a aussi fait des stages à Cuba l'approche effectivement de l'économie marxiste et tout ça. Faut rappeler que Maduro était un employé des transports urbains locaux à Caracas et que effectivement, mais en 15 ans, il est devenu, enfin tout le monde lui reconnaît le niveau d'un, comment on appelle ça, d'un chef d'État. Ce que j'ai découvert, c'est un document que vraiment on peut conseiller à tous les gens qui ont un ordinateur, mais heureusement presque tout le monde en a un, mais pas tout à fait. Et d'aller sur le site d'un site qui s'appelle legrandsoir.info, le grand soir, attaché tout ça, legrandsoir.info. Et là, ensuite, vous avez un sous-titre qui apparaît dans la déclinaison de la page, 50 vérités sur Hugo Chavez et la révolution bolivarienne. Et c'est un document extraordinaire qui vraiment permet de faire un contrepoids facilement à tout ce qu'on entend au niveau de la volonté de détruire un peu le chavisme, tous ces gens, journalistes hélas, mais hommes politiques, de droite c'est normal, mais de gauche aussi, certains d'ailleurs, démolissent à partir effectivement d'éléments superficiels, démolissent, mentent sur la réalité de ce qu'a été cette période de 15 années. Il y a le journaliste qui a rédigé ça pour le compte du Grand Soir, fait un travail vraiment de clarification, parce qu'il a finalement classé ça en 50, non pas par objectif, mais en 50 éléments d'approche du bilan Chavez. Et c'est des chiffres, c'est irréfutable, c'est des choses que des journalistes honnêtes ne devraient pas contester. Et puis cependant, ben, ils parlent d'autres choses. Alors ils vont parler, par exemple, qu'il y a encore beaucoup de corruption, de criminalité, etc. Qu'aux obsèques, ils avaient fait venir cet affreux Iranien, donc, alors que c'était un Iranien qui était là parmi tant d'autres, quoi, je veux dire, mais on a focalisé là-dessus. Alors ce journaliste, je ne vais pas tous les citer, hein, je dis aux gens, allez sur le site du Grand Soir, legrandsoir.info, info au singulier. J'en cite quelques-uns, simplement, il démarre en disant, toutes les élections ont été supervisées par les unions sud-américaines, par l'Union européenne, l'Organisation des États américains, enfin, toutes les élections ont été supervisées. Il y en a eu 16. Chavez en a gagné 15. Aucun pays peut revendiquer d'avoir aussi souvent remis en jeu son exercice du pouvoir. Au point que des instances internationales ont pu déclarer, par exemple Jimmy Carter, qui est à la tête d'une ONG qui surveille beaucoup toutes les élections partout, a dit que finalement le système électoral vénézuélien s'était révélé le meilleur et le plus correct du monde au cours de ces années passées. L'UNESCO a décrété que l'illettrisme avait été éradiqué au Venezuela, ça remonte à plusieurs années. Je vous cite encore quelques-uns des exemples parmi ces 50 exemples. De 1999 à 2011, le taux de pauvreté est passé de 42,8 à 26,5 et le taux de pauvreté extrême de 16,6 à 7%. Et je crois qu'en France, on n'est pas loin de ce 7% que les Vénézuéliens ont atteint. Se montrer très fier de nos propres résultats. Oui. En 1999, 82% de la population avait accès à l'eau potable. Aujourd'hui, c'est 95%, donc on peut dire pratiquement 100%. Depuis 1999, le gouvernement a remis plus d'1 million d'hectares de terres au peuple aborigène, et dans l'ensemble de la réforme agraire, c'est 3 millions d'hectares de terres qui ont été distribués aux paysans, et qui étaient, comme beaucoup en Amérique latine, des grandes latifundas ou des propriétaires ne cultivaient des fois même pas des milliers d'hectares. Encore deux ou trois données que je vous transmets. Depuis 1999, plus de 50 000 coopératives ont été créées dans tous les secteurs de l'économie. Autre chose, le taux de chômage est passé de 15,2% en 98 à 6,4% en 2012. 6,4%. Alors, on nous laisse croire par des images comme ça c'est un pays où il y a massivement du chômage. Il n'y a pas de chômage, il est même donc nettement inférieur à ce qu'il est en France. Le temps de travail hebdomadaire est de 36 heures. Bon, ben nous, on est à 35 heures, mais on a du mal à le défendre, nos 35 heures. La dette publique est passée de 45% du PIB, produit intérieur brut, en 98, à 20% en 2011. De 45 à 20, elle est tombée de 45 à 20%. Le Venezuela s'est retiré du FMI, de la Banque mondiale, en remboursant par anticipation toutes ses dettes. Enfin, le Venezuela offre son soutien direct au continent américain, plus important que les États-Unis. En 2007, Chavez a alloué pas moins de 9 milliards de dollars en dons, beaucoup plus que ne le font les Américains qui, eux, n'ont distribué que 3 milliards sous forme de dons aux autres pays du continent américain. La création de Petrocaraïbes en 2005 permet à 18 pays d'Amérique latine et de la Caraïbe, soit 90 millions de personnes, d'acquérir du pétrole subventionné à hauteur de 40 à 60% et d'assurer leur sécurité énergétique, les gens les plus pauvres. Le Venezuela apporte également son aide aux communautés défavorisées des États-Unis. Les États-Unis, ils n'en parlent pas, hein, comment le pétrole vénézuélien aide à des prix favorables les plus défavorés des Américains. Voilà, et puis il termine en parlant effectivement de ce grand mouvement qu'est l'Alliance bolivarienne pour les peuples de notre Amérique, l'ALBA. L'ALBA qui est ce mouvement pour que l'être humain soit au centre du projet de société du XXIe siècle et pour lutter contre la pauvreté et l'exclusion. Voilà, bon, c'est du concret, c'est pas cette espèce de pinaillage que font les journalistes en se moquant de ce personnage qui est atypique et qui a ses propres formes, d'ailleurs, qui sont très proches de ce qu'ont toujours été les grands leaders latino-américains. Alors, on se moque de lui, on le craint à cause de ça, on l'a craint à cause de ça en Europe. On a dit du mal en permanence sur lui. Et quand un type comme Victorin Lurel, c'est le ministre de l'Outre-mer en France, hein, donc qui a été envoyé. Ça a été long à décider, mais finalement François Hollande a décidé d'envoyer Victorin Lurel. Donc ils ont fait quand même, en envoyant un ministre, mieux que d'envoyer simplement, comme on fait beaucoup de pays européens, envoyer simplement leur ambassadeur en disant allez-y, etc. Bon. Et alors, ce ministre qui est guadeloupéen, qui est un battant, bon, il est socialiste, mais il fait vraiment, il s'est battu, il a à la fois occupé des postes comme le conseil régional de Guadeloupe, et il a démissionné lorsque effectivement Paris n'avait pas une politique progressiste à l'égard de Martinique et Guadeloupe. Enfin, c'est un type très courageux et qui s'est permis de dire que finalement Chavez c'était De Gaulle plus Léon Blum. De Gaulle, l'homme qui appelait à la résistance nationale du pays, et Léon Blum parce que c'était l'homme du début du Front populaire qui avait amené, enfin avait accepté un certain nombre de réformes sociales de grande envergure. Et donc Victorin Lurel était allé même beaucoup plus loin, puisque il avait cette phrase, alors cette phrase assassine. Moi, c'est lui qui parle. Hein. Moi, je dis, et ça pourrait m'être reproché, et ça l'est abondamment, que le monde gagnerait à avoir beaucoup de dictateurs comme Hugo Chavez, puisqu'on prétend que c'est un dictateur. Hein, il y a ajouté l'humour. Il a pendant ses 14 ans au pouvoir respecté les droits de l'homme et les droits de la Constitution, etc. Alors là, effectivement, ça fait gueuler beaucoup à droite, puisque déjà Jean-François Copé demande solennellement à François Hollande de dénoncer ses propos, de faire une mise au point sur cette déclaration. Enfin bon, la droite est complètement retournée par ces déclarations.
On l'a
voilà,
vu.
C'était un long exposé sur cette période.
On l'a vu aussi d'un mot.
Clôturé par une élection le 14 avril, et bien, à titre personnel, bien, moi je souhaiterais que Maduro soit élu.
Alors, ce soir, c'est la date limite pour le dépôt des candidatures. Hein, Capriles, l'opposant, a déjà déposé la sienne. Quoi. Alors, on a remarqué, bien sûr, que tous les médias bourgeois se sont tenus tranquilles pendant deux jours après la mort de Chavez. Mais depuis, ils n'arrêtent pas de cracher sur le cadavre, hein, comme tu l'as un petit peu expliqué, avançant des arguments du genre « Aujourd'hui, le Venezuela est en pire situation économique que quand Chavez est arrivé, au motif qu'il n'a fait que distribuer la rente pétrolière sans rien organiser ni investir dans le pays, qui est encore plus en plus mauvaise situation économique en fait qu'il l'était il y a 15 ans ». Enfin, on entend ce genre de truc aussi qui est déversé à profusion sur les ondes nationales et privées. Voilà.
On vous conseille d'aller consulter effectivement ce site qui donne des chiffres exacts qu'on peut vérifier. C'est donc le site legrandsoir.info.
Un autre sujet, allez, on parle un petit peu en Afrique,
oui.
Donc le Kenya, Kenyatta, Uhuru, son prénom, élu au premier tour président à 51 ans contre son adversaire Odinga. Je ne sais pas ce qu'il en est de cet homme politique. Ce qu'on sait, c'est que par ailleurs, il a le CPI aux fesses, hein, qui, à cause de ce qui s'est passé après les élections d'il y a 4 ans, même plus, 2007-2008, l'a inculpé de crimes contre l'humanité. Donc il compte bien, lui, normaliser sa situation internationale à la faveur de son élection. Alors ses accusations sont-elles abusives ou justifiées? Ça va pas simplifier, en tout cas, les relations diplomatiques du nouveau président kényan avec les Occidentaux, tout ça. Tu avais un commentaire là-dessus? Non, pas trop?
Non.
Donc, Nigeria, puisqu'on est en Afrique, 7 otages étrangers auraient été exécutés. Il n'y a pas de Français là-dedans. Hein. Anglais, Italien, Grec, Libanais... Des employés de Tetraco. Et puis les combats sur le terrain continuent. Et il y aurait eu aussi, par ailleurs, 50 militants islamistes tués dans les affrontements. Voilà. De quoi d'autre avais-tu envie de nous parler? De l'Afghanistan, de la Libye?
Évoquer la Syrie, où justement oui. Les observateurs de l'ONU ont été relâchés par les rebelles qui appartiennent à une des factions dures de l'islamisme présent sur place, là-bas, dans la bataille syrienne. Bon, ils ont été finalement relâchés, mais à l'ONU, ils ne sont pas du tout contents. Et de plus en plus, effectivement, l'ONU s'aperçoit qu'elle est dépassée par cette situation, que la rébellion est incontrôlable et qu'en fait, d'être incontrôlable, ça veut dire qu'elle est de plus en plus entre les mains des radicaux djihadistes qui, en plus, sont les mieux armés, ont souvent une formation parce que c'est des gens qui viennent de tous les fronts de guerre qui ont pu être menés depuis l'Afghanistan et ailleurs, et l'Algérie et ailleurs. Et alors, on a appris, alors là, c'est Valls qui l'a déclaré, je crois que c'est hier, c'est à propos de l'anniversaire, triste anniversaire, hein, de ce qui s'est passé à Toulouse et Montauban. Il a dit, mais il y aurait actuellement plusieurs dizaines de djihadistes français qui combattent en Syrie. Alors, c'est également une déclaration choc. Qui fait que la droite interpelle en disant mais d'où vous tenez ça, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que vous racontez, etc. Ce qui veut dire que pratiquement, je crois que si les Européens et surtout si Hollande, qui combat les djihadistes au Mali, était cohérent, il dirait stop, on ne se tient plus du tout. Bon, c'est peut-être dommage, mais on... Il faut laisser faire le processus électoral en Syrie l'année prochaine, puisqu'il y a des élections présidentielles de prévues, et il faudra accepter, même si ça ne fait pas plaisir, que Bachar soit candidat parmi d'autres candidats.
Oui, enfin sur le front, on n'en est peut-être pas tout à fait là, parce que sur le front militaire, tu as vu que les rebelles aujourd'hui ont repris un quartier de Homs dont ils s'étaient fait chasser il y a un an. Et que cette prise-là, c'est faire sauter un verrou entre Damas et Alep qui pourrait couper Bachar el-Assad de ses approvisionnements en armes russes et iraniennes. Quoi. Donc, sur le terrain, ils semblent avancer leur position. Hein. Est-ce que tu disais à propos des djihadistes, mais Hollande, il en récupère aussi des djihadistes français au Tchad. Il semble qu'ils en ont ramené une dizaine en France des prisonniers capturés au Tchad, dotés de la nationalité française. Quoi. Tu as vu cette info?
Il y avait peut-être alors une confusion dans la tête de Valls, alors, parce qu'il parlait des djihadistes qui combattent actuellement en Syrie.
Ouais, en tous les cas, il y en a au Tchad aussi. La Palestine, en dit un mot, peut-être cette troisième intifada qui commence avec une révolte dans la nouvelle génération contre la situation faite par les colons israéliens et aussi à propos de la lutte des prisonniers qui protestent contre la situation qui leur est faite et qui font des grèves de la faim. On redoute en Israël des affrontements en Cisjordanie.
Hein. D'autant que Netanyahou semble incapable de former son gouvernement, mais de toute façon, c'est l'armée qui commande là-bas, et puis c'est le Mossad. On sait bien que la démocratie, au sens traditionnel, est tout à fait formelle. Bon, tout le monde est libre, certes, mais en fait, le vrai pouvoir est exercé par l'armée, et le Mossad et les services secrets.
Bon, l'heure avance, on va faire une petite pause musicale et venir à notre rubrique nationale.
Peut-être un mot encore rapide. Pour dire que les Tunisiens peinent à mettre sur place un gouvernement et les partis laïcs, ils sont embarrassés parce que du 26 au 30 mars, il va se tenir le Forum social mondial à Tunis. Et donc, ils ne savent pas comment se situer par rapport à cette présence du forum, c'est-à-dire faut-il qu'ils entrent dans ce gouvernement qui sera un gouvernement toujours dirigé par Ennahda, ou faut-il qu'ils restent à l'extérieur justement pour être tout à fait beaucoup plus libres par rapport à ce qui va se passer en Tunisie à la fin du mois. Voilà, je crois que c'était. Et il y a quelque chose que je développerai la prochaine fois, parce que ça peut attendre, c'est on a des statistiques sur le fait qu'il n'y a jamais eu autant de milliardaires sur la planète qu'en cette année 2012 par rapport, c'est le classement annuel 2013 du magazine Forbes qui montre qu'il y a 1426 milliardaires sur la planète, c'est-à-dire 200 de plus que l'année précédente. Donc la crise, ça va bien.
Une pensée pour Mandela, qui a été hospitalisé avec ses 95 ans, je crois, qui est sorti de l'hôpital. Personnage éminemment sympathique. On écoute Francesca Solville, qui chante Michel Buller, Je me bats. Francesca Solville, elle sera à Lyon sur scène, à la MJC Saint-Jean, c'est 15 et 16 mars.
Il existe quelque part à Nantes un noir chemin long de 10 pas où des humeurs incandescentes roulent des vagues sous mes pas. Même si l'heure est parfois à la désespérance, attendu que la frime gouverne et fait sa loi, même si les années dans lesquelles on s'avance ont la couleur du triste et du chacun pour soi, même si le bonheur n'est plus une évidence, mais semble s'éloigner à chacun de nos pas, même si l'on me dit que c'est perdu d'avance, que le monde est ainsi et qu'on n'a pas le choix, je me bats. Même si maintenant c'est être en résistance et risquer d'être seul que d'élever la voix pour dire sans relâche l'incroyable arrogance des plus riches que tout, des maîtres d'ici-bas. Même si le normal c'est l'infinie souffrance des enfants décharnés aux yeux vidés sans joie. Même si le correct se nomme indifférence, même s'il parle fort, ceux qui baissent les bras, je me bats. Je suis d'un temps d'espoir, d'un temps de délivrance, où l'on osait rêver et les peuples là-bas faisaient tomber leurs chaînes et brisaient le silence. Oh les jolis printemps.
Francesca Solville, donc, qui sera sur scène à Lyon les 15 et 16 mars à la MJC Saint-Jean. Vous retrouvez le Canu Info du 11 mars 2013 avec Michel en duplex, Jean-Pierre dans les studios pour la rubrique nationale. Un petit tour de l'actualité politique, Robert.
Oui, on va simplement rappeler que dans quelques jours, voire une ou deux semaines, deux congrès sont importants. Le congrès du parti de gauche, dont les deux présidents sont Martine Billard et Jean-Luc Mélenchon, parti de gauche va tenir son congrès. Parti de gauche, donc c'est un des trois composants du front de gauche avec le PCF et le groupe des cinq, qu'on appelle comme ça maintenant, parce qu'ils sont en train de mettre en place une espèce de coordination des alternatifs convergence et socialisme, phase, gauche anticapitaliste et gauche éco. C'est les trois composantes de ce front de gauche qui, à fond, se mobilisent dans la dénonciation de l'austérité, la dénonciation de l'accord national interprofessionnel signé par le MEDEF et plusieurs syndicats. Bon, les syndicats, on les connaît. On met en tête la CFDT parce que c'est le plus important, mais il y a également la CFTC, il y a la CGC et il y a l'UNSA aussi, qui ne participe pas aux discussions parce que trop petit pour être représentative dans ce genre de discussion, mais l'UNSA, bizarrement, signe l'accord également. Deuxième point social, la CGT, avec son congrès qui va se tenir également dans deux semaines, avec l'arrivée de Thierry Lepahon, je ne sais pas comment il faut prononcer, qui remplacera Bernard Thibault à la tête. Alors, c'est une CGT, naturellement, qui est assez combative ces temps-ci, toujours comme ça la veille des congrès. Elle secoue un peu en permanence le cocotier, ce qui naturellement ne plaît pas. Mais elle est suivie par Force Ouvrière, pas partout d'ailleurs. Force Ouvrière n'est pas forcément à la traîne de la CGT et dans tous les conflits, loin s'en faut. Et justement, à propos des conflits, je voulais parler de la décision qui est attendue de la Cour d'appel de Paris. À propos de Sanofi. Alors Sanofi, ça concerne tout le monde et ça concerne aussi les salariés.
Surtout les malades. De Lyon.
Et Cour d'appel de Paris doit statuer sur la plainte des syndicats qui réclament un plan détaillé de sauvegarde de l'emploi et qui refuse le plan présenté par Sanofi, qui lui, en fait, est un plan qui organise dans un premier temps les départs volontaires. Donc pour l'instant, ça va sûrement être mis en délibéré, la Cour d'appel, sur cette question. Alors, par rapport à cette situation, il se trouve que le coordinateur CFDT des différentes entreprises, usines et ateliers ou centres de recherche de Sanofi, CFDT, eh bien lui, il est également contre la signature par son syndicat CFDT national de l'accord avec le MEDEF. Et donc, il a participé avec la CGT à des manifestations, notamment à des dénonciations contre les licenciements boursiers, parce que Sanofi, qui gagne beaucoup d'argent, en fait, ne prévoit guère que des restructurations. Du genre licenciement boursier. Et pour l'instant, effectivement, Montebourg, le gouvernement, il ne fait pas grand-chose pour faire avancer une loi pour contrer ces licenciements boursiers. C'est même tombé dans les oubliettes. Et dernier point social important, c'est la bataille autour de l'emploi à Goodyear. Alors, on sait qu'il y a eu ces déclarations scandaleuse d'une autre boîte américaine, Titan, qui on avait pensé un temps qu'elle allait reprendre Goodyear pour faire du pneu pour gros volume, et qui a dit mais non, c'est des feignants à Goodyear, je ne veux pas du tout reprendre cette boîte. Alors on se souvient du scandale que ça a fait. Et donc il y avait un comité d'entreprise jeudi dernier à Ruelle Ma Maison, qui est donc de tous les Goodyear. Et bien, toutes les usines avaient envoyé du monde, mais un barrage imposant de policiers devant, et naturellement, ce qui devait arriver arriva, à savoir que ça s'est terminé par quelques échauffourées. Alors, on voit déjà Valls qui se frotte les mains parce qu'il a annoncé qu'il allait saisir la justice, enfin, pas par l'entremise de sa police, saisir la justice pour coups et blessures lors de cette manifestation. Et ça tombe bien pour tous ceux qui, y compris le gouvernement, ne veulent pas que la loi d'amnistie, surtout les syndicalistes, pas forcément des affaires où il y avait des bagarres, mais simplement un tas d'affaires où des syndicalistes ont été criminalisés. Et donc cette loi qui est passée au Sénat doit passer très prochainement à l'Assemblée nationale. Et donc, un certain nombre de gens, la droite du gouvernement et du PS, avec Valls, si on pouvait enterrer cette loi, ça l'arrangera en même temps. Et il a un bon exemple, là, il va dire, mais voilà, moi je vous apporte la preuve avec les bagarres qu'il y a eu chez Goudir. Autre
plus
point
un
qu'on pourra naturellement rediscuter... c'est comment le plan d'austérité se renforce en France, puisque Cahuzac veut trouver 5 milliards encore. Il faut que les ministres et l'État se serrent la ceinture, mais on sait bien ce que ça veut dire. Ça veut dire supprimer des emplois, supprimer des investissements, supprimer des tas de choses. Alors Cahuzac a eu cette formule fabuleuse, je ne sais pas d'où il la tient, de quel économiste il la tient, mais il a découvert que faire réduire les dépenses d'État et des ministères, c'était récessif à court terme. D'ailleurs, je ne savais pas que le mot récessif existait, mais bon. C'est récessif à court terme, mais ça favorise la croissance à moyen terme. Alors là, il a fait très très fort, Cahuzac, en justifiant ainsi le nouveau tour de vis de 5 milliards qui va être opéré très prochainement.
Je dirais un mot de l'appel manifesté à Nantua samedi à 14h contre les forages en Rhône-Alpes et Franche-Comté, donc contre les forages pour les gaz de schiste, une manifestation importante qui va se dérouler là-bas. Voilà, on va peut-être terminer par quelques infos culturelles. La première que je voulais vous donner, c'est cette pièce « Huguette et son facteur » de Eugène Giuliani, qui la joue avec Anne-Claude Sauton. C'est au théâtre Sous le Caillou, 23 rue d'Austerlitz, dans le 4e. Jeudi, vendredi, samedi à 20h30, cette première semaine, les places sont à 10 euros. 04 27 44 34 38, si vous voulez réserver. Huguette est à la retraite, elle déprime, et devant le vide de sa solitude, elle va réagir. Et comment ? Ce sera l'occasion d'aller le voir. Et puis, il y a une soirée cabaret, la Quinzaine du Rouge, qui est au Centre culturel de la vie associative de Villeurbanne, au 234 cours Émile Zola. Donc, c'est une soirée à partir de 18h30, avec trois parties. Un débat avec Chassaigne, député, président du groupe Front de Gauche au Parlement. Et une partie humour avec la compagnie du Lavoir qui présente un spectacle qui s'intitule Pressing. Et puis une partie culturelle avec un hommage à Louis Aragon. L'impôt est servi à 18h30 avec un buffet froid. Bref, l'entrée, spectacle et buffet froid, 18 euros. Tu avais aussi une info, Robert ?
Et oui, c'était. Ben d'ailleurs, on peut faire la liaison parce que je voulais rappeler le cabaret de Jérôme Savary. Ça a été une de ses grandes productions quand il était à Lyon, entre 86 et 89, au théâtre du 8e. Et c'est parti de là-bas. C'est un succès énorme. Beaucoup de gens à Lyon ont vu cette comédie musicale, cabaret. Eh bien, Jérôme Savary, décédé la semaine dernière, sera demain honoré au cimetière du Père-Lachaise dans la matinée. Alors c'est par toute son équipe, un peu tout le monde, tous ceux qui ont vécu avec le Magic Circus et les animaux tristes, eh bien seront auprès de la dépouille de ce Jérôme Savary, qu'on avait baptisé, que tout le monde appelait le mélancomique. Il ne fallait pas confondre avec mélancolie, c'était le mélancomique. Jérôme Savary, demain matin, au Père Lachaise.
En fond sonore, celui que vous entendez dans le rock, la marche des loups et le rock des loups.
Ah, d'accord.
Voilà, je terminerai avec une dernière annonce de spectacle poétique. C'est un peu le printemps des poètes, il y a une multitude de trucs. Mais au Patadôme d'Irigny, c'est 62 rue d'Yours à Irigny, ce samedi à 15h, trois poètes qui ont fondé le Patadôme Théâtre diront leur texte. Il s'agit de Michel Brett, de Georges Chiche et de Chantal Ravel. Voilà, un après-midi à partir de 15h jusqu'à 17h30. Ce Canuinfo se termine sur la voix de Jérôme Savary et de son équipe. Nous pourrez le réécouter dès ce soir, je pense, normalement sur Internet, et demain matin à 8h. Bonne soirée à nos auditeurs.
Bien sûr, petite fille, ce petit canard n'était pas prévu dans l'histoire des loups, mais il aimait bien embêter les trois gentils petits loups, embêtant le canard, mais pas si embêtant que Loulou quand il chantait le rock des loups.
Les survivants d'Hiroshima, on les appelle les Ibakusha, rescapés du picadon. Le picadon éclaire, boum!
Bira, bira, bira,
bira. Insère des os et tissus organiques, espérance de vie réduite.
Nausée, vertige. Bira, 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 bira.
Les Ibakusha souffrent d'un mal étrange et difficilement définissable, baptisé Bura Bura, la maladie du rien faire. Le ministère de la Santé japonais a été obligé de classer les Ibakusha comme invalides, au même titre que les leucémiques.
Palpitations, troubles de la mémoire. Bura, 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 bura.
Dans la ville nouvelle, trop malade pour travailler, pas assez pour mourir, les nouveaux venus croient le mal atomique contagieux. Nous ont privés de bains chauds.
Bura, 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 bura.
Selon une croyance japonaise, les guirlandes de papier suspendues au plafond peuvent favoriser la guérison des malades.
Bura, 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 bura,